18h17 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Le bordel est pogné entre Doug Ford et Mark Carney, le premier ministre ontarien et le premier ministre canadien. Et dans tout ça, ou du moins celui qui a comme déclenché tout ça, ben Donald Trump, le président américain. Puis je dis « a déclenché tout ça ». On pourrait aussi dire que c'est Doug Ford qui a déclenché tout ça avec la fameuse publicité ontarienne, avec l'extrait où on entendait Ronald Reagan dire que les tarifs, c'était pas bon. Puis là, c'est ça qui a fâché Donald Trump. Fait que là, c'est ça qui a fait que Donald Trump a dit « Les négociations avec le Canada, ben c'est terminé. » Puis en passant, il va y avoir un 10% de tarifs supplémentaires de plus. Le Mark Carney dit « Les négociations allaient bien. C'est la publicité de Doug Ford qui fait que ça va plus bien. » Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Qui devrait faire quoi pour essayer qu'on se remette sa bonne track puis qu'on puisse recommencer à négocier avec Donald Trump? On fait le tour de tout ça avec Sandra Aubé, la vice-présidente affaires fédérales chez TACT. Sandra, salut!
Salut!
Commencez avec ça, là, le bordel est poigné.
Oui, oui, oui. Ça va pas comme le gouvernement de Mark Carney aurait souhaité que ça aille, disons.
Trump qui ne veut plus parler à Mark Carney. Mark Carney qui dit que c'est la faute à Doug Ford. Doug Ford qui veut pas s'excuser. Là, on fait quoi avec ça?
Je pense qu'on a besoin d'amener des enseignants. J'ai l'impression qu'on est dans la cour d'école avec des amis qui sont pas contents. Puis là, on a une petite dynamique où on blâme l'un et l'autre. Je pense que la réalité, c'est que toi puis moi, Max, puis nos auditeurs sauront jamais vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'avec Donald Trump, qui est un tempérament colérique, intempestif, on le sait, des négociations peuvent toujours dérailler. On nous disait ouvertement, la semaine dernière, on se disait que ça se pourrait qu'il y ait quelque chose au sommet de la PEC. Ça, c'est un sommet qui va avoir lieu là, les 31 octobre puis 1er novembre, donc à la fin de la semaine, la fin de semaine prochaine. Il va y avoir des dirigeants de partout dans le monde qui se retrouvent. Ils se retrouvent en Corée du Sud. Puis là, on se disait peut-être qu'il y aurait, un accord là, qui pourrait être divulgué puis entériné. Mais en toi puis moi, c'est pas la première fois qu'on entend dire que peut-être qu'il y aura un accord, que peut-être que personne ici a vu, ni les premiers ministres. Donc, il y en avait-tu un, il y en avait-tu pas un? Ce qu'on entend derrière des portes closes aussi, c'est que les Américains seraient frustrés par un manque de flexibilité de la part des Canadiens. Fait qu'est-ce que c'est la publicité qui a fait dérailler? Est-ce que la publicité est un prétexte? C'est sûr que ça a dû frustrer, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que tout le monde ici qui nous écoute, on n'a pas accès à cette information-là. Puis que je pense qu'il faut lire un peu entre les lignes aussi. Là.
Est-ce que tu penses, Sandra, que Mark Carney est vraiment, bon, pas content à l'endroit de Doug Ford aussi? Puis là, c'est, je ne veux pas dire que c'est complotiste un peu de le penser, mais ça se peut-tu qu'on ait décidé de jouer au genre de bon cop, bad cop? Puis que là, Mark Carney, c'est le bon cop dans l'histoire, Doug Ford, c'est le bad cop, puis comme ça, ben on pense que c'est une bonne stratégie pour négocier avec un gars comme Donald Trump.
Ben, c'est pas le genre de choses qu'on viendrait avouer sur la place publique, certainement. C'est une théorie qui circule. Je ne sais pas à quel point il y a du mérite, à quel point on doit accorder de l'attention à cette théorie-là. C'est sûr que si les négociations étaient pour dérailler, ça donne un bon prétexte. Puis, tu sais, quand on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, il y a un dossier qui était... Qui est devant la cour par rapport au président Trump. Puis ils ont éventuellement, en 2026, vont avoir des élections de mi-mandat qui vont s'en venir. La façon dont ça semble être perçu, c'est que cette publicité-là est venue jouer dans les affaires domestiques. Ça, c'est ce qu'on entend, là, que c'est venu jouer dans les affaires domestiques, notamment dans des États qu'on appelle des swing states. C'est des États qui sont importants au niveau des républicains. Donc, on est venu jouer dans la fibre MAGA. Ça n'a pas bien été reçu. Puis ça, d'un point de vue politique, je le comprends. T'sais, comme tu ne veux pas avoir un autre pays ou d'autres dirigeants politiques qui viennent jouer là-dessus. Mais de là à dire comme Mark Carney, comme c'est tout de ta faute, puis vous n'êtes pas fiable, puis la confiance a été brisée. T'sais, encore une fois, je reviens à mon analogie de cours d'école. La politique canadienne, t'sais, on est une fédération, on élit des premiers ministres des provinces, les citoyens le font, puis on a un premier ministre du Canada, et c'est pas le premier ministre du Canada qui dicte la conduite de tout le monde, comme les gens sont souverains de prendre leurs propres décisions. C'est sûr qu'on souhaiterait que tout le monde travaille ensemble. Mais Mark Carney ne va pas juste faire comme OK, les amis, on rentre en rang. Puis, comme on fait, tu sais, les premiers ministres, en Ontario, ça ne va pas bien, là, comme le secteur automobile, les emplois, il y a tout le volet de l'acier. On est fortement touchés. Donc, M. Ford a décidé, lui, de rouler ses manches dans le type Ford. Puis, ce qu'on voit, c'est que le premier ministre du Canada ne blâme pas M. Ford. Hein. Il perd de la publicité, on blâme la publicité, mais on n'en fait pas un conflit interpersonnel. Ça, je trouve ça super intéressant.
Est-ce que, ou du moins, Doug Ford a multiplié les sorties dans les médias américains dans les dernières heures. Qu'est-ce qu'il cherche à faire réellement? Parce que là, il y a une des théories qui circule que Doug Ford, ben oui, en ce moment, il est premier ministre ontarien, puis ce qu'il fait peut être bon en ce moment pour l'Ontario aussi, mais que lui, il regarde ce qui se passe au fédéral, puis il regarde peut-être un Pierre Poilievre qui est en train de se planter, puis Doug Ford se dit. Hey, sais-tu quoi? Moi, je vais commencer à préparer le terrain pour éventuellement devenir le premier ministre du Canada. C'est une théorie qui se tient ou ce que fait Doug Ford présentement, ben, tu penses qu'il fait vraiment pour sa province comme premier ministre de l'Ontario?
Je pense que Doug Ford fait du Doug Ford présentement. Puis toutes les fois qu'il fait un coup d'éclat ou qu'il se drape de son drapeau du Canada comme capitaine Canada, on dit, ah, il a des visées sur la chefferie conservatrice au niveau fédéral. Peut-être, il avait mentionné au printemps dernier reprendre ses cours de français. Entre vous et moi, s'il voulait reprendre ses cours de français, il y avait plusieurs années pour le faire. Mais c'est sûr que ça vient le positionner avantageusement alors qu'on entend moyennement parler, j'ai envie de dire, l'opposition conservatrice à Ottawa. Puis que si on regarde, je regardais un sondage, je pense que c'est Écosse, qui montre que les libéraux ont quand même ont gagné du terrain dans les derniers jours au niveau de l'avance. Je pense on a au moins 10 points d'écart, mais ce n'est pas tous les sondages qui montrent ça. Quand je parle de sondage, il faut toujours le prendre avec un grain de sel. Hein. C'est quand on les met tous ensemble qu'on est capable d'avoir un portrait. Mais certainement qu'il, tu sais, quand tu as aussi le premier ministre du Manitoba, Wabkinou, soutient ce que M. Ford a fait. David Eby, le premier ministre de la Colombie-Britannique, qui est un premier ministre comme néo-démocrate, comme rien à voir avec les conservateurs de Doug Ford, qui soutient aussi. Puis dit, moi aussi, je vais en faire des publicités, je vais en faire pour le bois d'oeuvre. Ce sera peut-être pas comme celle de Doug, mais ouais, ça va être bon. Fait que c'est sûr qu'il vient chercher du crédit. Fait que, je pense qu'on ne peut pas éliminer la théorie que tu as apportée, Max. C'est une théorie qui est intéressante. Puis si jamais on venait qu'à avoir un leadership, honnêtement, on n'en est pas là du tout, là, mais si jamais les conservateurs fédéraux venaient à avoir une course au leadership, c'est sûr qu'ils regarderaient du côté de l'Ontario. En même temps, Doug Ford est bien en selle. Il a eu une élection anticipée au printemps. Il a été se chercher un mandat majoritaire pour 4 ans. Donc, il a les coudées franches, lui.
On parle de politique fédérale, mais dans les dernières secondes, tu as nommé plusieurs premiers ministres provinciaux. François Legault, lui, sa place dans tout ça, comment il devrait la prendre? Parce que pour l'instant, puis en fait, pas mal depuis le début, pas mal mollo, François Legault, alors que le Québec, habituellement, a quand même cette tendance-là à vouloir sortir fort puis à affirmer sa place dans le Canada. C'est pas ça qu'on voit vraiment de François Legault depuis le départ dans tout ce qui se passe avec les États-Unis.
Oui, c'est un point intéressant que tu amènes. Je pense qu'on a vu beaucoup le gouvernement de M. Legault au niveau économique par rapport à un repositionnement au niveau de l'industrie de la défense puis des leviers qui ont été poussés. Mais c'est vrai que présentement, on voit d'autres acteurs, puis on voit beaucoup, par exemple, Jean Charest dans les médias aller parler là, de son expérience puis de sa lecture par rapport à la chose présentement. On voit moins, on entend moins le gouvernement du Québec puis M. Legault, alors que c'est un terrain où il pourrait aller pousser davantage. Le Québec a beaucoup d'éléments. T'sais, si on regarde l'aluminium, il y a aussi des éléments au niveau de l'acier. Si on regarde le bois d'œuvre, si on regarde la gestion de l'offre, hein, les Américains, ils en parlent les moins, mais on en vient encore à un moment où, comme là, nos voisins du Sud ont fait un peu, pas un peu comme ils ont mis fin carrément aux discussions. Puis, tu sais, pour reprendre les discussions, on va pas juste comme s'asseoir tout le monde autour de la table après une semaine pour dire, OK, on s'est calmé les nerfs, puis maintenant on est prêt à discuter. Moi, je suis convaincue que c'est une stratégie pour arriver encore à une autre concession. Et les éléments qui sont sur la table depuis le début où il y a de la pression, c'était notamment le secteur automobile et c'était aussi la gestion de l'offre.
Sandra Aubé, vice-présidente Affaires fédérales chez TACT, qu'est-ce que ça dit tout ça sur l'unité canadienne?
Je pense qu'on est à un moment où le premier ministre Carney, je pense qu'il le savait en prenant ce poste-là, doit faire extrêmement attention à maintenir l'unité. On a une Alberta, présentement une province de l'Alberta, avec Daniel Smith qui veut pouvoir donner, faire sortir les ressources de la province. Hein. C'est une province qui est enclavée, donc ils ont besoin de plus de pipelines pour pouvoir sortir leurs ressources. L'industrie du bois d'œuvre en Colombie-Britannique qui est profondément affectée, l'industrie de l'automobile en Ontario qui l'est, l'aluminium notamment au Québec, mais avec d'autres éléments aussi. En Atlantique aussi, on est frappé, si je regarde le niveau du bois d'œuvre. Donc, tout le monde est frappé à des niveaux divers. Il n'y a personne qui est content présentement, même si on est quand même, et c'est vrai, on est quand même protégé par l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le fameux ACEUM, l'ancienne ALENA, qui doit être révisé, donc renégocié l'an prochain. Je pense que M. Carney marche sur des œufs, certainement. Il a fait beaucoup plus de travail que son prédécesseur, cela étant dit, pour rencontrer, aller à la. Connecté avec les premiers ministres provinciaux. Mais quand on regarde au Québec aussi, on va avoir une élection. On voit les sondages présentement, où ils sont, avec un Parti québécois qui est beaucoup plus fort. Certainement, l'unité nationale, puis de garder le Canada ensemble, est quelque chose qui doit être en tête des priorités. Et quand tout le monde, quand il n'y a personne qui est bien parce que l'économie ne va pas bien, ça peut être facile à maner de se dire, ben, peut-être que je serais mieux de faire mes propres affaires.
En ce moment, là, le rôle de Pierre Poilievre comme chef de l'opposition, comme chef conservateur, ça devrait être quoi? Est-ce qu'il devrait... Puis quand je parle de son rôle, c'est sûr que ça dépend des visions de n'importe qui, là. Mais est-ce que pour lui, politiquement, ça serait payant de peut-être se ranger du bord un petit peu de Mark Carney puis de le soutenir dans notre lutte face aux États-Unis? Est-ce qu'il devrait prendre le côté de Doug Ford puis de la position plus forte? Est-ce qu'il devrait faire comme en ce moment, ou du moins c'est l'impression que j'ai, là, puis se retirer un petit peu puis pas trop sortir? C'est quoi la meilleure stratégie pour Pierre Poilievre?
C'est juste à dire parce que M. Poilievre doit faire face à un vote hein, de la part de son parti pour venir asseoir son leadership en janvier prochain. Donc, il est à consolider son leadership auprès vraiment de sa base partisane. Donc, il doit répondre à ces impératifs-là. En même temps, ce que j'ai envie de dire, ce que le Canada a besoin, c'est l'équipe Canada. Et c'est sûr, on le voit aussi. D'ailleurs, il faut dire que le gouvernement de M. Carney a emprunté beaucoup d'idées conservatrices dans les éléments qu'il met en place. Donc, il les inspire, je pense. Je pense que les conservateurs pourraient inspirer plus ouvertement encore et participer plus ouvertement à l'effort Canada. Je pense que c'est ce qu'on ne voit pas présentement et qui pourrait être utile advenant une élection ou de dire ce sont les idées que nous on pousse sans venir s'entre-déchirer, mais de dire comme ce sont des idées conservatrices, puis qu'aussi s'ils ont des liens qu'on tend de la main de l'autre côté de la frontière pour dire que ce serait le fun de résoudre ces enjeux-là. Là.
En terminant, Sandra, justement, à quoi tu t'attends à court terme? Est-ce que tu penses que Donald Trump et Mark Carney vont être en mesure de reprendre les négos assez rapidement ou tu as l'impression que Trump va faire attendre Mark Carney puis c'est lui qui va décider quand ça va reprendre puis on le connaît, le personnage, là. C'est difficile de prévoir ça va être quand.
Mais je pense qu'on a un agenda intéressant présentement. D'un point de vue diplomatique, là, quand les esprits s'échauffent, c'est bon de prendre une petite pause. Donc, je pense qu'on va voir. Il n'y a pas de revenir à la table cette semaine là, ou dans les 10 prochains jours. Je dis ça, mais est-ce que ça veut dire que les fonctionnaires se parlent plus? Je pense qu'il y a encore des échanges, des discussions. Mais juste pas au niveau où c'était, pas à haut niveau. Il n'y a pas d'entente définitivement sur la table. Mais ensuite, bon, nous, on a un budget fédéral la semaine prochaine. Donc, du côté des Américains, certainement, on regardera. regardera, l'administration américaine regardera qu'est-ce qu'il y aura dans ce budget-là, le langage qui sera utilisé. Et ensuite, donc, on n'aura pas de mouvement à ce moment-là. Ils vont attendre de voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Et ensuite, éventuellement, il y a l'action grâce aux États-Unis. On a eu le nôtre en octobre. Les États-Unis, c'est en novembre. Donc, on va focusser, ils vont probablement focusser là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'on a une couple de semaines avant de se rasseoir à la table puis d'avoir des discussions proactives.
Sandra Aubé, vice-présidente Affaires fédérales chez TAC. Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine pour le budget.
Oui, absolument.
Good, merci beaucoup. L'entrevue qui se retrouvera bien sûr sur le blvd.fm et sur l'application mobile Boulevard 102.1 que je vous invite à télécharger, oui, pour retrouver les entrevues, tout ce qui se passe sur nos ondes dans tous les shows, que ce soit Marceau le matin. Le Point de Max, on en jase ou bien Gravel dans le retour, sans oublier Marceau le soir. Dans les prochaines minutes, jeudi, on fête le 30e anniversaire, jour pour jour, du référendum sur la souveraineté du Québec de 1995. Et on en jase avec l'ami Nathan Meilleur. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard 102, il est 10h32.
Le Point de Max.